Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Nous sommes en finale, bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une évidemment, vous le disiez, les Bleus à un match d'une troisième étoile qualifiée pour la finale du Mondial et qui dimanche vont pouvoir défendre leur titre face à l'Argentine après avoir battu le Maroc hier soir 2-0. Au bout du rêve donc, cette troisième étoile pour la France et pour un homme, Didier Deschamps, joueur et surtout aujourd'hui sélectionneur, le meilleur au monde. On en parlera à 12h40 avec son biographe Bernard Pasquito. Et au-delà du sélectionneur, la France est d'ores et déjà 4 finales de mondial en 25 ans. D'où cette question du jour sur notre site rtl.fr. La France est-elle devenue la plus grande nation de football au monde? Quoi, on est chauvin?
On a raison surtout.
Une fête malheureusement endeuillée. Hier soir à Montpellier, un adolescent de 14 ans est décédé, fauché par un chauffard, un automobiliste qui avait pris la fuite mais qui a été interpellé ce matin. Autre chiffre glaçant, 208 000, c'est le nombre de femmes victimes de violences conjugales recensées l'an dernier en France. Moins d'une sur quatre a porté plainte.
RTL toujours plus proche de vous. Dans moins de 10 minutes, ce sera RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour la station de ski des Gers où les cigarettes sont désormais bannies. C'est une première en Europe. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Pascal, vous êtes plutôt Monopoly ou Cluedo?
Plutôt Monopoly.
Ils sont très prisés, vous le savez, les jeux de société. Ils seront nombreux encore au pied des sapins cette année. On va parler de ce qu'ils créent dans notre quotidien, notamment au moment des fêtes. Enfin, vous l'avez peut-être entendu en live ce matin sur RTL. Juliette Armanet a remporté l'album RTL de l'année. Votre prix donc, puisque c'est vous qui votiez et vous avez plébiscité Brûler le feu. C'est le nom de cet album. On y revient évidemment dans RTL juste avant 13h dans LVT Midi.
Et ce sera très foot évidemment avec les auditeurs, j'imagine, à partir de 13h au 32-10.
La météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Un temps bien pluvieux dans le sud.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
On parlait du temps, le froid piquait peut-être un peu moins hein, ce matin, malgré les cernes et la fatigue chez de nombreux Français. Car une bouffée de chaleur et de bonheur nous est arrivée du Qatar hier soir avec la victoire des Bleus 2-0 sur le Maroc. La France peut donc rêver d'une troisième étoile et d'un doublé historique dimanche à 16h face à l'Argentine de Léo Messi. Bonjour Antoine Cavallero.
Bonjour à tous.
Bien inspiré que vous êtes allé rencontrer des Parisiens à la sortie du métro Argentine ce matin et on veut y croire.
Oui, l'Argentine, hein, tout le monde y pense. Ici, Dorian, la trentaine, a déjà réservé sa table dans un bar parisien pour dimanche.
Hâte et en même temps un peu stressé. C'est vrai que l'engouement hier était un peu différent que celui contre l'Angleterre, où il y avait quand même plus de pression de mon côté. Donc je pense que dimanche, on va retrouver cette pression-là et on espère la joie à la fin du match aussi.
Elle vous fait peur, cette équipe d'Argentine avec Léo Messi?
Moi, elle me fait peur. Ouais. Moi, elle me fait peur. Ça va être un match assez serré et je pense qu'on va passer un bon moment de football. Ouais.
Kevin, lui, est plutôt confiant pour cette finale, mais il prévient.
C'est la revanche de l'équipe de l'Argentine par rapport à 2018. Donc, les deux veulent la troisième étoile.
Comment vous allez la regarder, la suivre, cette finale?
En famille. Que, voilà, on va tous se poser dimanche et on va regarder ça tous ensemble.
Vous allez être nombreux sur le canapé?
Oui, les enfants, ma femme. Je crois qu'en plus, on est chez ses parents, donc on va être tous regardés et on va tous supporter. Ouais.
Kevin qui se verrait bien sur les Champs-Élysées dimanche. Elvira aussi en rêve, mais il y a un mais.
Je vais fêter ça, c'est sûr. Après, de manière plutôt calme, parce que j'attends un heureux événement. Donc, je vais éviter les mouvements de foule, mais le cœur y sera en tout cas.
Et on espère que cet heureux événement se produira sous une troisième étoile.
On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Antoine Cavallero. Alors les supporters ont-ils raison d'être si confiants? Une certitude en tout cas depuis 98 et la première étoile. C'est la quatrième finale de Coupe du Monde pour les Bleus. La France est-elle le meilleur pays de foot au monde? On en parle dans quelques minutes avec Hugo Hamelin, l'un de nos correspondants, nos envoyés spéciaux au Qatar.
La victoire des Bleus fêtée dans tout le pays mais endeuillée à Montpellier.
Un jeune de 14 ans est en effet décédé, fauché par un chauffard dans le quartier de la Paillade, Patrick Tégéraud, alors qu'il participait aux festivités d'après-match. Le chauffard qui avait pris la fuite a été interpellé.
Oui, il est actuellement sous surveillance policière à l'hôpital de Montpellier car le chauffard a été passé à tabac, certainement par des témoins qui ont voulu se venger. L'incident a eu lieu au cœur du quartier de la Paillade, un quartier difficile de Montpellier, et comme on le voit sur une vidéo tournée depuis les étages d'un immeuble, eh bien on voit un groupe qui s'en prend à une voiture qui arbore un drapeau bleu-blanc-rouge. La victime s'empare de ce drapeau et le conducteur, lui, sort brutalement de la file de voiture où il se trouvait pour faire demi-tour et il percute l'adolescent. Le conducteur, conscient de son acte, a ensuite abandonné son véhicule à moins de 100 mètres, sous la pression des témoins violents qui s'en sont pris à lui. Il pourrait être mis en examen pour coup mortel aggravé, porté avec une arme par destination, en l'occurrence la voiture.
Patrick Tégéro à Montpellier pour RTL. Par ailleurs, pas d'incident notable, même si quelques échauffourées ont eu lieu dans plusieurs villes. Plus de 260 personnes interpellées dans tout le pays, avec au moins 110 gardes à vue rien qu'à Paris. On y revient en détail dans le journal de Midi et demi.
RTL Midi.
Le cas Adrien Quatennens n'a pas fini de diviser chez les Insoumis.
Condamné mardi à 4 mois de prison avec sursis pour violence contre son épouse, le député LFI a annoncé hier qu'il comptait revenir à l'Assemblée nationale dès janvier comme non inscrit dans un premier temps puisqu'il est exclu de son groupe pour 4 mois. Une annonce qui n'a pas été du goût de son collègue insoumis François Ruffin. Le député de la Somme était sur RTL ce matin.
Je trouve que ça manque de retenue. Quand le jour même on a une condamnation quand même pour violence conjugale, réagir en direct dans un grand média, je trouve que ça manque de retenue. Je pense que quand on a une décision judiciaire de cette nature-là, ça demande du temps. Je suis sur le rapport au temps. Ça demande du temps pour la digérer, pour se demander ce qu'on en fait soi-même, ce qu'on en fait pour la société, ce qu'on en fait pour la politique. Et je pense que ce temps de digestion aurait été bien.
François Ruffin avec Amandine Bégaud sur RTL, retour qui fait débat donc, alors que dans le même temps on découvre ce chiffre communiqué par le ministère de l'Intérieur ce matin. 208 000 femmes ont été victimes de violences conjugales l'an dernier en France, c'est 21% de plus qu'en 2020, Anne Lehnaf.
Oui, c'est un chiffre qui a quasiment doublé en 5 ans, qui peut s'expliquer en partie aussi par le fait que les forces de l'ordre sont mieux formées qu'avant et parce que la parole se libère. D'ailleurs, la proportion de victimes qui viennent dénoncer des faits anciens augmente. La très grande majorité d'entre elles sont des femmes, 87%. Dans 2/3 des cas, il s'agit de violences physiques. Viennent ensuite les violences verbales, des menaces, des insultes, et les violences sexuelles, plus rares, mais elles aussi en augmentation. La moitié des victimes ont entre 25 et 39 ans, vivent plus souvent en ville qu'à la campagne. Les départements les plus touchés sont la Guyane, la Seine-Saint-Denis et le Nord. Mais cela reste encore la partie émergée de l'iceberg, parce que là on parle de victimes qui poussent la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Or, moins d'une victime sur 4 va porter plainte.
Anne Lehnaf pour RTL.
Les personnes qui touchent le SMIC gagneront 24 euros de plus dès le mois de janvier.
24 euros net, oui, pour un SMIC mensuel qui passera à 1353 euros, toujours en net. Une hausse de 1,8%. Et puis la fin de l'impression systématique des tickets de caisse qui était prévue le 1er janvier est repoussée. Elle n'entrera finalement en vigueur que le 1er avril. La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour nous parler de l'après-midi qui nous attend. Ce sera humide au sud, c'est ça?
Exactement, avec une perturbation bien pluvieuse, notamment dans le sud-ouest, avec sud-est, pardon, avec des pluies très soutenues cet après-midi, avec des pluies orageuses même sur les côtes entre la Côte d'Azur et la Corse. Et moins soutenu, plus éparse sur l'Aquitaine. On a même une petite poche en fait de temps sec entre le midi toulousain et le Languedoc-Roussillon. Profitez-en parce que vous êtes les seuls sur la partie sud. Plus au nord, on a un temps sec, alors plus ou moins nuageux entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, avec quelques averses côtières possibles. Et puis en allant vers l'île de France et vers les frontières du nord, là c'est sec et beaucoup plus lumineux. Tout ça avec un risque d'avalanche également sur les Alpes. Soyez véritablement prudents parce que les Hautes-Alpes sont passées en vigilance orange avalanche à l'instant. Et on nous signale la fin de la vigilance orange, neige, verglas sur le nord-est. Mais prudence sur les Hautes-Alpes hein, parce que on évite le hors-piste hein, quand c'est comme ça. Les températures, elles restent froides au nord et plus douces au sud. 0 à Mulhouse, 1 à Nancy, 2 à Paris, 3 à Caen, 4 degrés à La Rochelle, sachant que hier il faisait 14 degrés hein, hier après-midi. 5 à Cherbourg, 8 à Cognac, 11 à Bordeaux, 13 à Montauban, 15 à Marseille et jusqu'à 17 degrés à Ajaccio.
Et a priori, ça se réchauffe fortement en début de semaine prochaine.
On attend avant que ça se réchauffe.
Dans le nord.
Voilà, avant que ça se réchauffe, ça va rebaisser. Non, je voulais pas vous donner de mauvaises nouvelles, mais bon.
On donne les choses dans l'ordre.
Et après, oui, ce sera le retour de la douceur. Enfin, en tout cas, de température moins froide.
Merci beaucoup, Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, chaque jour l'info au plus près de vous en France.
Et aujourd'hui, direction la Haute-Savoie, plus précisément la station de ski des Gets. Bonjour Serge Peillot.
Oui, bonjour à tous.
Station qui ouvre ce week-end et qui innove. Elle est la première en Europe à interdire la cigarette sur ses pistes.
Oui, fini la clope au bec, comme l'on dit familièrement. En descendant les pistes, il faudra garder son paquet de cigarettes dans sa doudoune cet hiver au G. Benjamin Munier est le directeur commercial du domaine skiable.
Concrètement, il sera interdit de fumer à la fois sur les remontées mécaniques, mais aussi sur les pistes, sauf à 5 endroits, 5 zones fumeurs qu'on a aménagées sur le domaine, où là, voilà, les fumeurs pourront s'accorder une petite pause cigarette. En fait, on se rendait compte que toutes les initiatives qu'on a faites par le passé pour réduire le nombre de mégots jetés dans la nature étaient assez vaines. On distribuait des cendriers de poche gratuitement en caisse. Ça ne marchait pas. Lors du dernier ramassage des déchets, on a retrouvé 3000 mégots sur la journée. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision d'un domaine skiable sans tabac.
Il n'a pas tort, Benjamin Munier, parce que ce qui était sale, disons-le, Serge, c'était les mégots qu'on trouvait notamment quand ça fondait, quand la neige fondait, et ça pollue énormément.
Ah oui, effectivement, Émilie Maisonnas travaille pour l'association de protection de la montagne Mountain Riders, et les chiffres qu'elle cite sont éloquents.
Un mégot pollue 500 litres d'eau. Nous, à l'échelle de toutes les destinations de montagne, cette année 2022, on a ramassé plus de 24 000 mégots. Donc c'est ce qu'on a pu compter en sachant qu'il y en avait bien plus et qu'on n'a pas eu la possibilité de tous les compter. Mais juste ça, ça équivaut à environ 5 piscines olympiques polluées. Donc clairement, en fait, quand vous jetez un mégot, 500 litres d'eau polluée en montagne vont atterrir à un moment donné dans les mers, dans les océans, dans les rivières, et ça va polluer l'ensemble du cycle de l'eau. Et du coup, la proposition des Gets pour nous est une vraie réponse.
Et puis il y a l'aspect santé, Serge, qui est loin d'être négligeable lui aussi.
Oui, c'est ce qu'estime Benjamin Munier, le responsable commercial donc du domaine skiable.
C'est sûr que nous, nos clients viennent nous voir, nos visiteurs viennent nous voir pour l'air pur de la montagne. Et on a aussi l'aspect santé, puisque il y a toujours un phénomène de tabagisme passif avec des gens qui continuent de fumer dans les files d'attente ou sur les sièges à côté d'autres clients. Donc on voulait, par cette mesure assez forte, réduire à la fois la pollution et agir sur la santé. Et avec la Ligue contre le cancer, on a travaillé aussi là-dessus pour être ce premier domaine skiable sans tabac. Donc c'est dans l'air du temps et on avance.
Voilà, au Gets, on espère que cette opération Piste sans tabac fera école dans d'autres stations françaises.
Merci beaucoup Serge Peillot en Haute-Savoie, donc pour RTL ce matin.
Dans les années 90, il y avait un grand joueur anglais qui s'appelait Gary Lineker et qui disait que le football est un jeu qui se joue à 11 et qu'à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Bien, aujourd'hui, cette phrase, on pourrait l'adapter à la France. La France est-elle la meilleure nation au foot du monde? On va en parler dans une seconde. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Et 2022. Alors deux de ces hymnes sont déjà devenus victorieux. On espère le même destin pour la chanson de gala dimanche en cas de sacre des Bleus. Ce qui est certain, c'est que la France disputera ce dimanche à 16h sa quatrième finale de mondial en moins de 25 ans. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar qui couvrait donc cette compétition. Bon, ce chiffre, il est fou quand même.
Ouais, ça veut dire que sur les 7 dernières finales de Coupe du Monde, la France a plus souvent été présente qu'absente. 4 finales pour 3 éliminations plus précoces. Ça hisse le maillot bleu parmi les plus grandes nations de l'histoire du jeu. Le Brésil, bien sûr, qui a remporté 3 titres en 4 éditions. Et puis l'Allemagne aussi, avec 3 finales consécutives en 82, 86 et 90. Mais pour un seul titre, là où les Bleus en ont déjà obtenu 2. Enfin, les Allemands, ils ont quand même 4 étoiles sur le maillot. Il faut donc raison garder. Mais la France a été très performante, c'est vrai, ces dernières années.
Alors on cherche évidemment les raisons. On ne peut pas dire par exemple que notre championnat soit le plus flamboyant, et c'est bien normal puisque les meilleurs vont jouer dans les plus grands clubs européens.
Oui, c'est vrai. Kylian Mbappé, le seul titulaire des Bleus version 2022 à jouer en Ligue 1. Et on se rappelle qu'il s'en est fallu de peu pour qu'il ne file au Real de Madrid cet été. Tous les autres jouent dans de grands clubs à l'étranger comme le Bayern de Munich ou l'Atlético Madrid. Notre championnat national, c'est le cinquième, voire le sixième en termes de niveau en Europe, derrière l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et même à la lutte avec le championnat du Portugal, c'est vous dire.
Est-ce que ça veut dire que c'est l'équipe la plus séduisante que vous avez vu jouer, Hugo ?
Ah, la plus séduisante, c'est quelque chose d'un peu impalpable, ce que vous me demandez, Céline, mais c'est en tout cas la plus régulière dans la compétition depuis 25 ans, ça c'est clair. Là encore, en 2022, ils le prouvent qu'avec seulement quelques actions, ils peuvent tuer un match. C'est vraiment ça, hein. C'est deux générations dorées, c'est Zidane, Barthez Henry et Griezmann, Loris, Mbappé, qui ont réussi là où la bande à Platini avait échoué dans les années 80. C'était l'époque des perdants magnifiques français. Et donc aujourd'hui, on a des générations qui sont plus rationnelles, pragmatiques, qui sont animés par la volonté de gagner plutôt que par la séduction du jeu.
Oui, mais qui ont faim aussi et qui sortent parfois de milieux difficiles, qui sont recrutés, parce que le foot recrute toujours dans...
Raymond Coppa avait commencé sa carrière avant d'être footballeur, il descendait dans la mine quand même, c'était dur aussi.
Oui, mais le foot recrute toujours dans les milieux les plus défavorisés souvent, hein. Et cette génération a faim, vous avez des gens de 17, 18, 19 ans qui entrent tout de suite comme titulaires, il n'y a plus de temps d'adaptation. Il y a peut-être des raisons psychologiques pour expliquer ces réussites.
Alors ça va plus vite, c'est vrai, vous avez des joueurs qui sont plus jeunes et qui sont plus rapidement au haut niveau, mais le gros changement, la révolution culturelle, c'est le changement de mentalité français avec ses
30
ans en 98.
Ça a 30 ans. Ça a 30 ans.
Ouais, mais on a gardé quelqu'un de cette génération 98 qui nous permet aujourd'hui d'aller encore en finale. Didier Deschamps, écoutez ce chiffre, il est incroyable. Sans Didier Deschamps, la France a joué une finale de compétition internationale, c'était l'Euro 84 qu'elle a remporté. Mais avec Didier Deschamps, elle en a disputé 5. Il était sur le terrain en 98 et en 2000. Il était sur le banc en 2016, 2018 et 2022. C'est lui qui incarne cette révolution pour la gagne, cette révolution du foot tricolore.
Et justement, le cas Didier Deschamps, est-ce qu'il est, lui, le meilleur sélectionneur au monde? On en parlera à 12h40 avec Bernard Pasquito, l'un de ses biographes. Merci beaucoup, Hugo Hamelin. On vous retrouvera, évidemment, tout au long de la semaine pour nous faire vivre jusqu'à dimanche la compétition. Et puis, bien sûr, cette finale tant attendue dimanche à 16h face à l'Argentine. Merci, Hugo.
Si je vous dis que j'hypothèse que le docteur Moutarde...
Alors, c'est le colonel.
Moutarde. A tué Mademoiselle Rose.
Professeur Olive, sinon.
Chandelier. Vous dites Cluedo. Eh bien, ils seront en bonne place au pied du sapin. Les jeux de société. On parle toujours du Cluedo et du Monopoly, mais il y en a peut-être d'autres.
Bah, la bonne paye, mon bon monsieur.
Bien sûr. La rue de la paix, j'achète. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien, figurez-vous. Et aujourd'hui,
Kawax. Tu peux nous rappeler la définition de Kawax, Liliane? C'est-à-dire quelle heure est-il en sénégalais? Mais en tout cas, en français, ça veut rien dire, parce que voilà. On fait voir ses lettres. Votre pauvre mère, vous croyez que c'est drôle pour elle? Elle joue au Scrabble et finalement, elle se rend compte qu'elle parle beaucoup mieux sénégalais que français.
Le Scrabble qui, comme le Monopoly, le Cluedo, vous ont vu grandir, vous ont aidé aussi à passer le Covid plus récemment. Et ils ont su se renouveler, ces jeux de société qui seront encore très prisés à Noël cette année. Bonjour Frédéric Romero.
Bonjour.
Vous êtes le patron de l'œuf cube, la plus ancienne boutique de jeux de société à Paris. Bon, oui. On a parlé à l'instant des grands classiques, Scrabble, Monopoly, Cluedo, mais ils reviennent en force après s'être un petit peu réinventés, les jeux de société.
Ah bah ça a complètement évolué, en effet. Il n'y a pas que le Covid qui a poussé vers le jeu de société, il y a aussi des mouvements sociétals, à savoir par exemple les parents qui voulaient éloigner les enfants des écrans, que ce soit les tablettes ou les téléphones, et puis surtout le fait de se retrouver et de passer un moment convivial ensemble.
La difficulté quand même, c'est d'inventer de nouveaux jeux de société, parce qu'on nous-mêmes, on parle du Monopoly et du Cluedo. Est-ce qu'il y a, à part ces deux jeux-là, est-ce qu'il y a un jeu... qui a un grand succès actuellement?
Alors, il y a des valeurs sûres et il y a des nouveautés tout le temps. C'est par semaine, on peut avoir jusqu'à 20 nouveautés.
Oui, mais manifestement, elles ne s'imposent pas, ces nouveautés. J'ai l'impression que moi, mis à part le Trivial Poursuite, sur les 30 dernières années, j'ai l'impression qu'aucun jeu de société ne s'est imposé.
Alors, ça commence véritablement. Il y a des jeux comme les Colons de Catane, les Aventuriers du Rail, qui sont des jeux qu'on trouve maintenant en grande surface et qu'on trouve dans la grande distrib. Donc ça, c'est, ils se sont imposés, ces jeux-là.
Et alors, tout le monde...
Ils ne sont pas arrivés jusqu'à mes oreilles, hein, parce que je ne connaissais même pas ces deux jeux, pour tout vous dire.
Ah si, enfin après...
La vie du rail, remarque, ça peut être intéressant avec les grèves à répétition, on peut peut-être apprendre des choses d'ailleurs.
Alors c'est plus la géographie de l'Europe ou des États-Unis, mais... mais oui, c'est vraiment des jeux qui ont ce côté vraiment convivial et des règles accessibles pour tout le monde. C'est des jeux familiaux.
C'est tout public justement le jeu de société. On touche toutes les franges de la société avec ce produit-là.
Ah oui, tout à fait. En plus, il y a de ça très longtemps, j'avais fait une petite étude sociologique dessus et culturelle. Ça touche vraiment toutes les catégories qu'on peut avoir. C'est vraiment incroyable. Et on retrouve en fait, lorsque les gens jouent, des sensations qu'on avait un peu quand on était enfant. On retrouve les mauvais caractères qui peuvent sortir, les mauvais perdants.
C'est source de conflit parfois quand même.
Ah bah, après... qu'on y met, hein. C'est comme toujours, il y a des gens qui peuvent prendre trop à cœur les choses, hein. Mais les jeux de société ont vraiment le vent en poupe et il y a une très très forte demande, beaucoup de parents et des jeux pour les couples aussi, des jeux pour jouer que à deux.
Ça, effectivement, il y a beaucoup de jeux pour jouer à deux pour les couples. À l'approche de Noël, en revanche, la demande, j'imagine, est plus forte, mais est-ce que vous pouvez me dire le top 3 est-ce que le Monopoly est toujours le jeu le plus vendu, par exemple, dans votre boutique?
Alors, pour nous, non, parce qu'on ne vend pas les grands classiques. Nous, justement, ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer des jeux qui sortent de l'ordinaire, qui vont rester accessibles, comme je disais, qui vont être simples.
Alors, mais quel est le jeu de société que vous vendez le plus?
Alors, actuellement, ça va être les Colons de Catane, ou Catane, en fait, qui est un jeu de développement. Oui. Et on va avoir aussi toute la gamme des Unlock. C'est en fait des escape games. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Alors, entre Unlock et escape game, là, faut que vous fassiez un effort.
Hein. Alors, Unlock, c'est le nom du jeu.
Oui.
Ça s'appelle Unlock. Ouais. Et les escape games, en fait, c'est
des énigmes qu'il faut résoudre pour s'échapper.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Exactement, à la base, c'était des gens qui étaient dans une pièce et qui devaient trouver des solutions à des énigmes pour sortir de la pièce. Et ça a été adapté en jeu de société.
Et ça dure longtemps, ce jeu? Parce que Monopoly, ça n'en finissait pas parfois. Cluedo, c'est rapide, ça dure une heure ou une heure et demie. Le Monopoly, on le pouvait jouer sur 3 jours.
Ouais, c'est vrai. Mais là, on est plus sur des durées de 1 heure, justement.
Bon, bah ça, c'est une bonne chose. Donc, dans la petite sélection que vous nous proposez, Unlock Space Game, Les Colons Catane...
Exactement.
J'ai bien retenu,
voilà.
Et puis peut-être, est-ce qu'il y a des jeux de société plutôt, alors vous avez dit pour les couples, est-ce qu'il y en a plutôt masculin, plutôt féminin, plutôt pour les enfants?
Alors, il n'y a pas de connotation homme ou femme, en fait, dans le jeu de société. Il n'y a pas ce problème-là.
Le nain jaune, ça existe toujours?
Ça existe toujours.
Ça existe toujours.
Mes grands-parents jouaient au nain jaune. Les petits chevaux également.
Ça, après, c'est un autre
ça
domaine.
Ça n'existe plus, les petits chevaux.
Bah, on est plus proche des jeux en bois, là. Ça commence un petit peu à disparaître, je pense.
Bah, merci. Merci beaucoup. On se souvient tous de la rue de la Paix. Breteuil, c'était vert. Malzerve, c'était rouge. Saint-Honoré, c'était jaune. Belleville, c'était... Mozart, c'était orange.
Rassurez-vous, ils ont toujours les mêmes couleurs, Pascal.
C'est vrai, on a beaucoup joué au Monopoly. Je vais aller direct à la case prison, figurez-vous. Il est 12h27 et on va revenir pour les infos avec Céline.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi. Il est pile 12h30.
RTL midi. Le 12-30. Céline Landreau et Pascal Praud.
Je pensais que Damien Béchiot aurait remplacé le carillon par l'hymne de l'équipe de France. Il est 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline.
Et justement, la France est-elle devenue la plus grande nation de foot au monde? C'est la question du jour sur notre site rtl.fr. Et elle se pose évidemment au lendemain de la qualification des Bleus pour la finale du Mondial dimanche. Ce sera à 16h face à l'Argentine, les Bleus qui ont battu le Maroc 2-0. 2-0 hier soir et qui peuvent désormais rêver d'une troisième étoile. Une troisième étoile pour l'équipe de France, une troisième étoile aussi pour un homme, Didier Deschamps. Il a été le capitaine victorieux en 98, il est aujourd'hui le sélectionneur des Bleus. Est-il le meilleur sélectionneur au monde? On en parlera d'ici une dizaine de minutes avec son biographe Bernard Pascuito. Dans l'actualité également, il avait été accusé de viol puis condamné à tort aux assises. 20 ans après, la justice annule la condamnation de Farid El Arrayi. C'est la plaignante qui avait écrit à la justice pour reconnaître qu'elle avait menti. Et si 65 ans n'était plus un totem, le gouvernement semble faire un geste sur la très sensible réforme des retraites. L'âge de départ pourrait finalement être fixé à 64 ans. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. Et on célébrera tout à l'heure Juliette Armanet qui a remporté l'album RTL de l'année pour cet album Brûler le feu que vous avez donc plébiscité, vous les auditeurs d'RTL.
Et les auditeurs justement, rendez-vous à partir de 13h pour évoquer bien sûr l'équipe de France au 32-10.
La météo complète à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Peggy Broche.
Un temps bien pluvieux cet après-midi dans le sud-est.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Cela fait plus de 20 ans maintenant qu'il vivait avec une réputation de violeur. Condamné aux assises, Farid El Arrayi a passé près d'un an en prison. Mais ce matin, et c'est rarissime, Cindy Hubert, la justice a annulé sa condamnation. C'est la plaignante qui s'était signalée au juge qui leur avait écrit même pour dire qu'elle avait menti. La fin donc d'un long calvaire.
Oui, c'est une décision historique. Il n'y aura pas besoin d'un nouveau procès. Farid est innocent, il n'y a plus rien contre lui. Son nom et son honneur sont blanchis. C'est terminé, lui sourit le président. Les larmes submergent Farid qui va pouvoir annoncer la nouvelle à ses parents en soins palliatifs.
Je ne sais pas trop quoi dire, je suis un peu sous les émotions. Merci. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. On ne peut pas effacer 24 ans de douleur, de souffrance, d'insultes. Vous savez, j'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération mentale, c'est ce qui est le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça reste, ça restera à vie.
Et désormais, Farid va pouvoir demander une réparation financière à la justice qui s'est trompée. Il va également porter plainte contre la jeune fille qu'il avait accusée à tort. Elle qui a bien été victime de viol, mais de viol incestueux par son propre frère.
Cindy Hubert du service police-justice d'RTL.
RTL Midi.
Et maintenant la finale, les Bleus défieront l'Argentine de Messi, Messi qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde, dimanche pour tenter de décrocher une troisième étoile.
Dans la douleur, mais avec abnégation, les hommes de Didier Deschamps ont en effet décroché leur billet pour leur deuxième finale de mondial consécutive hier soir, victoire 2-0 face au Maroc. Ce fut dur, en tout cas jusqu'au deuxième but libérateur signé Randal Kolo Muani, lui qui venait d'entrer sur le terrain.
Ouais, on peut pas rêver mieux, on va dire. On peut pas rêver mieux, j'espère que ça sera pas le dernier but. Je pense que je suis encore dans mon rêve, j'espère que je vais rester encore dans mon rêve jusqu'à dimanche et qu'on va rentrer avec la coupe à la maison. Dans cette compétition, il n'y a pas de petite équipe, il y a vraiment des surprises aussi. Et je pense qu'il faudra qu'on aborde ce match comme on aborde tous les autres matchs, avec beaucoup de concentration et détermination. C'est une belle année, j'espère qu'elle ne va pas se finir comme ça. J'espère qu'on va finir avec la Coupe du Monde et on verra bien.
Il faut marquer en finale maintenant.
On va essayer.
Bonjour Mourad Djabari.
Bonjour.
On vient de vous entendre, c'est vous qui avez recueilli les propos du buteur à la fin du match hier soir. Alors justement, au lendemain d'une rencontre pareille, alors que la finale est déjà dans toutes les têtes, l'urgence c'est quoi pour les Bleus? D'abord de récupérer?
Oui, les Bleus vont tout simplement être mis au frigo ces prochains jours, passer des heures sur les tables de massage en alternant avec des bains froids, les séances de kiné pour essayer d'atténuer les douleurs, faire disparaître les petits bobos. À ce stade de la compétition, les physiques sont usés, éreintés par les batailles qu'ils ont livrées et la répétition des matchs. En face, les joueurs de l'Albi Céleste de l'Argentine sont dans le même état et ils ont une prolongation dans les jambes. C'était en quart de finale face aux Pays-Bas. Et puis, Didier Lagagne, Didier Deschamps, comme les cadres de l'équipe de France, ont l'expérience de leur côté, une deuxième finale en 4 ans.
Finale programmée à 16h dimanche. On sait que Rabiot et Upamecano étaient souffrants hier. Coman aussi apparemment. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces malades ?
Oui, victime d'un état grippal. Adrien Rabiot a suivi la qualification hier au chaud devant sa télé à l'hôtel. Mais d'après Didier Deschamps, il devrait être sur pied dimanche pour la finale, tout comme Dayo Upamecano et Kingsley Coman. Pas 100% hier, mais ça devrait le faire. Il y a depuis quelques jours un virus qui circule au Qatar, un mélange entre notre grippe européenne et une grippe de l'Asie du Sud-Est. Rien à voir avec le Covid, mais hier, la FIFA a demandé de porter un masque dans les couloirs du stade. Une première depuis le début de la compétition. Le staff des Bleus dit prendre des précautions sans pour autant être inquiet.
Merci beaucoup, Mourad Djabari au Qatar, donc pour RTL.
La qualification des Bleus qui, malgré le froid, a été fêtée dans de nombreuses villes du pays hier soir. Une fête endeuillée à Montpellier.
Un jeune de 14 ans, oui, est décédé, fauché par un chauffard dans le quartier de la Paillade. Le conducteur a d'abord abandonné son véhicule et pris la fuite avant d'être interpellé. Il est ce midi à l'hôpital puisqu'il a également été roué de coups. Ailleurs, peu d'incidents notables, même s'il y a eu, ça et là, quelques échauffourées. Plus de 250 interpellations d'ailleurs dans tout le pays, Maxime Lévy.
Oui, en dehors de la région parisienne, les policiers ont interpellé 95 personnes. La quasi-totalité a été placée en garde à vue. Dans le détail, on y retrouve des arrestations pour violence, tir de mortier d'artifice ou vol de portable. Mais il faut le préciser, dans plusieurs villes de France, ces interpellations concernent des membres de l'ultra-droite. À Lyon, deux d'entre eux ont été interpellés. À Paris, le parquet explique que ce sont 40 individus affiliés à l'ultra-droite qui ont été placés en garde à vue.
Et alors, qu'est-ce qu'ils fomentaient, justement, ces groupuscules d'ultra-droite?
Alors, dans la capitale, ils étaient soupçonnés de préparer une action violente en marge de la demi-finale sur ces 40 membres de l'ultra-droite en garde à vue à Paris. Une quinzaine sont fichés S. Parmi eux, certains étaient armés de couteaux. À Lyon, un groupe d'une trentaine de personnes affiliées à ces groupuscules s'est déplacé dans les rues cagoulées et armées de bâtons, prêts à en découdre avec les supporters dans le centre-ville. Les policiers sont parvenus à les repousser et ont donc pu interpeller deux d'entre eux.
Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. 208 000 victimes de violences conjugales l'an dernier en France. C'est 21% de plus qu'en 2020 selon le ministère de l'Intérieur. Et c'est même presque deux fois plus qu'il y a 5 ans. Tout cela évidemment dans un contexte de libération de la parole. Deux tiers de ces violences sont des violences physiques.
RTL Midi. Et si finalement ce n'était plus 65 ans, le gouvernement semble infléchir sa position sur la réforme des retraites.
Réforme qui, vous le savez, devait être présentée initialement aujourd'hui, mais qui a été repoussée au 10 janvier. Le temps, avait expliqué Emmanuel Macron, de pouvoir...
Le temps de passer Noël.
Et de savourer cette qualification, peut-être, des Bleus. Le temps, en tout cas officiellement, de pouvoir en rediscuter avec les syndicats et l'opposition. Elisabeth Borne multiplie donc les entretiens. Et parmi les points de crispation, il y a cet âge de départ à la retraite. Et sur ce sujet, William Galibert, la première ministre, tend la main à sa droite.
Oui, en ce moment, c'est plus de la négo, c'est du tango argentin à Matignon. Il y a des pas en avant, des pas en arrière, des mains qui se touchent, des gens qui s'effleurent. C'est comme
alors,
ça que ça se passe.
Vous racontez la réforme des retraites d'une manière particulièrement sensuelle,
William. J'essaie de vous intéresser au sujet. Mais comment entraîner les Républicains sur la piste de danse pour qu'ils votent cette réforme au Parlement? Comment séduire la droite? Eh bien, l'une des hypothèses en ce moment, c'est de lâcher un peu sur l'âge. Emmanuel Macron a dit 65 ans, mais Elisabeth Borne murmure maintenant 64 ans, en allongeant aussi un peu la durée de cotisation. C'est de la technique, c'est de la tambouille. Et par magie, c'est aussi la proposition des sénateurs de droite pour parvenir à un compromis. Est-ce que ça suffira? Est-ce que la droite va toper? Est-ce que certains syndicats comme la CFDT pourraient aussi lâcher du lest avant les mobilisations du mois de janvier? Et est-ce que surtout cette alternative 64 ans pourrait être validée par le président? Mais là non plus, le match n'est pas encore joué.
Merci beaucoup, William Galibert.
Vous avez compris les jeux de mots
pour ce cours de danse. Oh, ouais, c'est une belle métaphore filée.
C'est un festival, cher William Galibert.
Merci beaucoup. Une hausse de 1,8% dès le 1er janvier pour le SMIC, qui passera donc à 1 353 € net. C'est 24 € de plus par mois. À l'étranger, on apprend que la ville de Kherson en Ukraine est aujourd'hui complètement privée d'électricité en raison d'un fort bombardement de son infrastructure essentielle. C'est ce qu'indique le gouverneur régional.
Direction le Royaume-Uni à présent, où Harry et Meghan continuent de régler leurs comptes.
Avec la mise en ligne ce matin sur la plateforme Netflix des trois derniers épisodes de la série documentaire mettant en scène le couple Harry et Meghan. Alors les trois premiers avaient été un peu fades,
oui,
on peut le dire.
Il n'y avait rien, Marie Billon nous l'avait dit.
Eh bien Marie Billon qu'on retrouve tout de suite parce que les suivants sont un peu plus croustillants.
C'est-à-dire
a priori.
Que Marie, vous avez été obligée de regarder ce matin à partir de 9h.
Exactement, 8h heure anglaise, vous voyez un petit peu tout ce qu'on fait pour vous. Alors oui, cette fois, le palais et certains membres de la famille royale en prennent un petit peu plus pour leur grade. La presse tabloïde reste la cible principale, mais le couple accuse Buckingham Palace d'être en partenariat avec les médias. Ils assurent que les services de communication de chaque membre de la famille royale est prêt à disséminer des rumeurs sur un autre membre pour détourner l'attention. Harry et William se seraient promis quand ils étaient petits de ne jamais faire ça quand ils serait grand, mais Harry accuse son frère de ne pas avoir tenu cette promesse et il raconte une réunion tendue visant à discuter du futur du couple.
C'était terrifiant de voir mon frère me hurler dessus, mon père dire des choses complètement fausses et voir ma grand-mère rester silencieuse.
Alors Harry excuse immédiatement sa grand-mère. Son travail était de défendre l'institution monarchique, dit-il. Mais Meghan estime que ce fonctionnement empêche les Windsor d'être une famille normale. Le couple accuse Buckingham Palace d'avoir empêché Harry notamment de voir la reine alors qu'elle avait invité son petit-fils et son épouse pour le thé. Donc ce genre de manigance. Mais finalement, même si certains membres sont critiqués, c'est surtout le fonctionnement du palais qui est mis en cause dans ces derniers épisodes, toujours aux côtés de la presse à scandale.
Marie Billon, Royaume-Uni pour RTL. La météo, on vous retrouve Peggy Broche.
Je préfère notre météo, plus exactement je préfère notre musique à celle que j'ai entendue dans le documentaire de Harry et Meghan.
Peut-être que nous avons plus de goût.
Je pense.
Peut-être.
Allez, un temps couvert dans le sud et pluvieux surtout, notamment dans le sud-est. Sur un quart sud-est, on a des pluies soutenues cet après-midi avec de la neige en montagne des 1800 mètres. Attention au fort risque d'avalanche. Les Hautes-Alpes sont en vigilance orange avalanche. Je rappelle que c'est la fin de la vigilance orange neige verglas sur le nord-est. Et ailleurs, on a un temps plus sec au nord entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, même s'il peut y avoir quelques averses côtières. C'est entre nuages et éclaircies. En allant vers l'île de France et les frontières du nord, on a plus de luminosité, tout ça sous des températures encore froides au nord, de 1 à 6 degrés et 8 à 16 au sud.
Merci Pays.
Il est l'homme qui sait, il est l'homme qui sent, il est l'homme qui choisit, il est l'homme qui gagne. Il y avait peut-être dans la victoire hier de Deschamps 40 ans de vestiaire et on va en parler avec Bernard Pasquito dans une seconde. Didier Deschamps, notre icône.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Jamais 203. Donc Didier Deschamps est là avec sa baraka et son talent. Et on sera tous là derrière. Dès ce soir, on prépare la finale et on la gagne.
Emmanuel Macron, hier soir, à l'issue de la qualification des Bleus pour la finale du Mondial, qui salue le rôle de Didier Deschamps, l'homme qui porte donc cette équipe de France depuis des dizaines d'années sur le terrain, puis aujourd'hui sur le banc. Et pour en parler avec nous, Bernard Pasquito, qui a écrit à Didier Deschamps, la victoire et rien d'autre. Bonjour.
Bonjour.
On parle du taulier, du coach. Il ne connaît pas la défaite, Didier Deschamps, ou alors on en fait une image très, très sublimée parce qu'on veut croire à ce destin hors norme?
Bien, on en fait une image sublimée parce que la défaite, il connaît. Oui, France-Bulgarie en 93 quand il est joueur. La finale de l'Euro 2016 chez nous contre le Portugal. C'est des souvenirs douloureux. Et puis, plus proche de nous, le dernier Euro. Ce qui est fabuleux chez Deschamps, c'est sa capacité à renaître, à se reconstruire, à réfléchir. On a l'impression des fois
il n'est pas souvent mort quand même, parce que pour renaître, faut être mort. Moi, j'ai plutôt l'impression d'une trajectoire rectiligne.
Oui, mais enfin, l'Euro, ça a été un sacré coup pour lui. Je pense qu'il l'a pris comme ça. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est la façon dont il a réussi à se reconstruire en 3 mois, parce qu'on gagne la Ligue des Nations derrière. Et aujourd'hui, ce parcours en Coupe du Monde, c'était pas si évident quand on est sorti contre la Suisse au tir au but en 8e de finale, alors que tout le monde nous attendait. Non, je pense que c'est quelqu'un qui, il semble parfois ne pas accepter la critique, mais en fait, elle le fait réfléchir et chercher d'autres solutions. Et je suis très intéressé de voir à quel point les joueurs, aujourd'hui, ont changé de discours sur Deschamps. Ils le trouvent plus proche, plus humain.
C'était vrai déjà en 2018, d'ailleurs. Il l'avait dit lui-même, il s'était adapté. Mais on a toujours envie de connaître des éléments de personnalité chez quelqu'un comme de Didier Deschamps, qui est aussi présent dans nos vies. Et pour le connaître un peu, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, et qui le définit peut-être parfaitement, c'est qu'il a rencontré sa femme à l'âge de 15-16 ans et il est toujours avec elle, elle s'appelle Claude, 40 ans plus tard. Et c'est peut-être un trait de personnalité très fort chez Didier Deschamps.
Oui, la fidélité. Alors il y a très peu de gens autour de lui, très peu de personnes. D'ailleurs, il a l'habitude de dire « ma femme, mon fils ». Et voilà. À l'époque, dans mon premier livre sur Deschamps, je disais que beaucoup de gens m'avaient dit « on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Didier Deschamps ». Et il m'avait répondu « mais ma femme, elle sait, elle ». Voilà.
C'est son pilier d'ailleurs, hein, Claude. Ils se sont rencontrés à Nantes, ils avaient 15-16 ans tous les deux. Ce n'est pas si fréquent dans une vie déjà classique, et notamment dans une vie de celle des personnalités comme Didier Deschamps, ce n'est pas si fréquent.
Ils sont unis par une histoire tragique. mais très émouvante aussi, c'est qu'ils étaient déjà ensemble, pas mariés, à l'époque où le frère de Deschamps a été tué dans un accident d'avion. Et donc Claude était près de lui, et quelques jours après, le père de Claude, sa fiancée, est mort d'une crise cardiaque. Et probablement à la suite de cet événement très douloureux, voilà, donc ils sont liés par cette chose-là aussi.
Pour revenir à l'aspect plus sportif, peut-être, vous disiez il y a quelques instants, il a du mal avec la critique Deschamps, mais après, il réfléchit. On dit souvent que c'est un homme de principe, et pourtant, on l'a vu changer d'avis ces dernières années sur des dossiers très médiatisés, sur certains joueurs. On pense à Benzema, à Rabiot, où il est revenu sur des décisions, même Giroud plus récemment.
Oui, bon, Rabiot, c'est une... tout le monde sait que c'est quand même Rabiot qui avait tort dans cette histoire. Et donc,
mais après, il a passé l'éponge.
Après deux ans, c'était pas non plus, il avait tué personne, Rabiot. Hein. Bon, Benzema, c'est plus compliqué, parce que passer l'éponge au bout de 5 ans et demi, c'est pas faire preuve d'un grand esprit de pardon. En revanche, je pense qu'il en avait besoin. Je pense qu'il y avait une nécessité à ce moment-là. Moi, ce que j'ai regretté, c'est de faire revenir Benzema au dernier moment, au moment où il annonce sa liste, ce qui a focalisé tous les regards sur Benzema. Des joueurs comme Giroud se sont sentis délaissés à ce moment-là, mis au rancard. Ça aurait été plus adroit de le faire venir 3 mois avant.
Ça veut dire que ce n'est pas un si excellent DRH que ça, comme on peut le voir partout, un meneur d'hommes extraordinaire. Vous êtes plus nuancé.
Non, mais non, quand même. Enfin bon, je veux dire...
Oui,
non,
il infuse de la confiance. Oui, mais lui, il en fait moins que les autres. Oui, il infuse de la confiance. Il sait, il maîtrise, il choisit, il cajole ou il punit. Il a vraiment beaucoup de qualités. Ce qu'il définit aussi peut-être, c'est ses heures de gainage. Une heure de gainage tout seul, et il mange des graines pendant ce temps-là. Cette volonté.
Oui, c'est bien pour un coq de manger des graines. c'est formidable.
Non, mais ça montre un rapport au corps, à la discipline qu'il s'impose depuis toujours.
Oui. Et d'ailleurs, quand il était... Parce que dans ces périodes de stress énormes, qu'il connaît beaucoup moins maintenant depuis qu'il est sélectionneur de l'équipe de France, depuis 10 ans, mais quand il a été entraîneur, il y a eu ces périodes de stress auxquelles sont soumis les entraîneurs. Et quand il était à Marseille, quand ça se passait mal, il prenait 10 kilos, 12 kilos, et après il allait faire une cure en Italie pour reperdre ses kilos, parce que le stress, ça implique ça aussi. Et voilà. Et donc, évidemment que le physique va avec. C'est quelqu'un.
Il faudrait évoquer aussi son intuition d'un vestiaire, son sens du collectif, de pouvoir écarter parfois des fortes personnalités au nom, justement, du collectif. Cette intuition, l'intuition des vestiaires, 40 ans de vestiaire hier ont gagné.
Oui, il a déjà été très fort quand il était joueur. On vantait sa qualité de stratège. Il a hérité ça aussi de Jacquet, qui à l'époque n'avait pas hésité à éliminer des joueurs, comme Cantona notamment, de l'équipe de France. Et Deschamps, c'est pareil, quoi, cet esprit-là.
Et on espère que cet esprit-là nous permettra de décrocher une 3e étoile dimanche à 16h face à l'Argentine. Merci beaucoup Bernard Pascuito. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre. Et c'est sorti aux éditions Poche. Merci beaucoup.
La culture dans une seconde.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Culture se met à table comme tous les jours de RTL Midi. Et aujourd'hui, donc, on célèbre l'album RTL de l'année 2022.
À 39 ans, Juliette Armanet est sacrée pour son disque Brûler le feu. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
La chanteuse est venue célébrer sa victoire sur RTL ce matin.
Eh oui, un prix sacrément mérité, Brûler le feu, et l'album RTL de l'année, projet incandescent et pop disco porté par Le Dernier Jour du Disco qui cumule déjà plus de 56 millions de streams. Le deuxième album de l'auteur-compositrice a ça séduit l'équipe artistique de RTL, mais surtout notre jury d'une cinquantaine d'auditeurs. Ils citent pêle-mêle la voix pure et touchante de Juliette Armanet, son talent de mélodiste rare, le mélange d'émotion et d'énergie, la vitalité de la production et aussi la thématique du disque qui explore plusieurs facettes de l'amour. Juliette Armanet, enchantée après son direct dans la matinale.
C'est joyeux parce que comme c'est un prix de public, je sais pas, j'ai imaginé les gens qui écoutaient les disques, qui prenaient le temps de considérer plusieurs aspects d'un disque, l'écriture, la voix, la production. C'est émouvant de savoir que les gens se sont penchés comme ça avec attention sur le disque.
Vous m'aviez dit, c'est un album cathédral, Brûler le feu. Mmh. Ça voulait dire quoi? Que ce disque a été plus que jamais complexe à monter, à construire, à imaginer?
Oui, c'est vrai qu'il y avait un côté un peu on construit comme ça une cathédrale, parce que c'était un disque effectivement assez complexe à imaginer, assez complexe à produire, parce que j'avais vraiment envie d'essayer de bouleverser ma manière de produire le disque, et donc je suis allée chercher plusieurs producteurs différents. Et c'est un disque, oui, qui a été dur à délivrer, et même dans l'écriture, j'ai eu le sentiment d'aller chercher très loin en moi. J'ai composé énormément, j'ai fait beaucoup de brouillons, je suis allée dans plein de directions différentes. Voilà, donc je suis particulièrement émue de me dire que tout ce travail-là a été entendu, reconnu, parce que ça a demandé beaucoup de patience, et pas qu'à moi d'ailleurs. Je veux pas changer de vie.
Extrait de l'album RTL de l'année.
Et elle a 39 ans et 5 ans après son premier album, Petite Amie, Juliette Armanet a transformé l'essai Stylène. Mais c'est vrai que sa trajectoire était peut-être plus longue que pour d'autres chanteuses.
Bah c'est vrai qu'elle était journaliste documentariste pendant des années. Elle a eu une première carrière avant d'avoir confiance en elle et de se lancer enfin dans la musique, de trouver sa voix aussi avec un X. Elle a eu beaucoup de mal. Confirmation aussi avec ce nouvel album qu'elle n'était pas une comète. Avec Brûler le feu, Juliette Armanet a encore affiné son style mélodique puissant.
Au-delà de reconnu, ça porte d'être entendu par ceux qui vous suivent dès le début, de se dire que tout ce travail, tout l'exercice du deuxième album, qui est vraiment la peau de banane, on le sait, il me confirme que, en fait, je peux avoir confiance dans ce que j'ai à dire, de me dire, bah voilà, j'ai une place ici dans ce paysage musical, en tant que femme, en tant que musicienne, en tant que compositrice, en tant qu'arrangeuse, place que j'ai été chercher aussi à la force du poignet, mais ça me met aussi en confiance parce que je commence déjà à m'imaginer la suite, à penser à la suite. Et je me dis tous les jours, j'ai de la chance que la mayonnaise ait pris, que le rendez-vous amoureux ait pu se reproduire à nouveau et même s'agrandir. Je vais avoir confiance, même si évidemment quand il s'agira de composer un troisième album, je serai dans les affres de la création. Mais en tout cas, merci à toute l'équipe d'RTL, merci au public, merci à vous Steven du fond du cœur pour le soutien, l'énergie, la confiance, vraiment.
Imaginez le soir et les splendeurs barbares accoudées à ton bras. Imaginez courir dans les forêts, rire au rythme de ta voix. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici.
Le superbe piano-voix, Imaginez l'amour.
Et la voix de Juliette Armanet qui s'est vraiment émancipée cette année, hein, Steven.
Oui, plus de 100 concerts et ça n'est pas terminé. Paris-Bercy le 17 mars, nouvelle série de festivals cet été. Il faut dire que la chanteuse discrète derrière son piano a mué en une showgirl ces derniers mois. Allez la voir sur scène, elle est vraiment impressionnante. Juliette Armanet en convient, il s'est passé un petit quelque chose en elle avec ce disque.
Franchement oui, mais je ne l'ai pas vu vraiment venir. J'ai l'impression que je suis à un moment de ma vie artistique qui est puissant, intérieurement je parle, hein, que j'ai découvert des endroits un peu insoupçonnés en moi, sur scène, je me suis aventurée à des endroits que je ne connaissais pas de moi, et c'est grâce à cet album plus orchestral, plus exubérant, il faut le porter cet album-là sur scène, il est costaud quoi, à la fois émotionnellement, il parle beaucoup de désir, il est brûlant. C'est un disque très incandescent et donc il n'y a pas de demi-mesure possible avec cet album, avec ces chansons-là. Comme si ma musique m'avait poussée à me rencontrer à nouveau et à rencontrer une nouvelle facette de ma féminité, de mon rapport au chant aussi, qui a changé beaucoup. Ce qui est beau dans ce disque, c'est qu'il m'a fait atterrir à un endroit que je ne soupçonnais pas de moi.
C'était du live. c'était ce matin dans ce studio, dans RTL Matin, le dernier jour du disco, à revoir en vidéo sur RTL.fr. Julia Tarmanet, sacré album RTL de l'année 2022, bravo à elle.
Et merci beaucoup Steven Bellery.
Dans un instant, les auditeurs, je salue parce qu'elle nous écoute Flavie Flamand et elle nous précise qu'elle a consacré un jour J à Didier Deschamps avec Bernard Pascuito et c'est à retrouver en podcast sur l'appli RTL. Il est 12h58, à tout de suite pour les infos et les auditeurs.
RTL Midi.